Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Première Classe, l'émission originale de l'équipe de GECO. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Alice et Sylvain. Salut Alice.
Salut.
Qui nous parlera de cinéma.
Avec le film Split.
Super, de l'actualité. Sylvain qui est venu nous parler de la rencontre qu'il a faite avec Gaël Faye.
Et oui, je vous parlerai de la rencontre littéraire avec Gaël Faye.
Apparemment, tu as beaucoup à nous raconter.
Oh oui.
Panda qui est toujours là pour nous parler de musique. Et puisqu'on parle musique, nous recevons aujourd'hui un invité, Michel Tafani, alias Mictaf, qui vient nous présenter son premier album sorti en novembre dernier. Mictaf, c'est un mélange de chansons couleur jazz, de musique française et surtout un voyage que nous démarrons tout de suite ensemble. Bonjour Mictaf.
Bonjour.
Ou bonjour Michel.
Je dirais bonjour Mictaf.
Mictaf, c'est donc ton nom d'artiste, mais tu n'es pas seul. Qui sont les musiciens qui t'entourent?
Alors, je suis entouré de Fabien Mille au piano, Fabien Leroy à la batterie et Bruno Berberian au saxophone.
Comment as-tu créé cette équipe et rencontré ces musiciens?
En fait, c'est une affaire de rencontres professionnelles, mais aussi amicales. Puisque j'étais responsable en tant que musicien, mais aussi programmateur d'un lieu, un resto jazz à Marseille. Donc, je jouais aussi à ce titre dans plusieurs groupes. Et j'ai rencontré Fabien Mille dans un groupe qui s'appelait Stam Trio, avec qui on faisait déjà des compos, donc le pianiste. Et puis, j'ai rencontré Fabien Leroy dans un autre groupe, Maiko et Mr. Joe, donc, qui lui était à la batterie. Et c'est en jouant ensemble donc, dans le TAF Trio qu'on a invité par la suite donc Nicolas De Martino au saxophone en premier. Et puis par la suite, Bruno Berberian nous a rejoint. Donc c'est là que j'ai rencontré Bruno aussi.
D'accord, donc une histoire d'amitié un petit peu tout ça en fait. Hein.
Absolument, d'amitié et puis aussi de feeling musical. Et voilà, exactement.
Tu es un petit peu donc partout, dans plusieurs groupes. Sur ton premier album, tu es principalement chanteur et bassiste et tu écris aussi tes textes. Quelles sont tes inspirations?
Alors, mes inspirations, je suis une inspiration un peu nocturne. C'est-à-dire que je me suis aperçu que c'est pendant la nuit que les phrases, les mots dansaient autour de mon esprit.
Comme tous les artistes.
Voilà, il m'arrive très souvent donc, à cette occasion de me lever. J'essaie de ne pas trop réveiller mon épouse d'ailleurs. C'est ainsi que j'écris les phrases qui me viennent. Et puis, il y a aussi un rythme dans l'écriture qui vient aussi danser dans mon esprit.
Peut-être un petit peu des voyages.
Alors en fait, si tu veux, les paroles de mes chansons, c'est un petit peu comme un vaste récit. Un peu comme un livre où chaque chanson, c'est un petit peu un chapitre. Et sur un thème central qui est celui de la rencontre. Puisque je trouve que dans notre vie est faite de rencontres finalement.
Tout à fait. On peut dire, avec toutes ces influences, tu es un petit peu un touche-à-tout, si je peux me permettre. Tu fais aussi d'autres instruments, tu fais du piano, de la guitare.
Oui, disons que c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'éclectisme. J'ai tout de suite commencé par le piano à l'âge de 6 ans. Puis après, dans mon environnement familial, mon père jouait de la guitare. Et puis par la suite, j'ai découvert la contrebasse. Et c'est tout naturellement que j'ai rejoint la guitare basse. Voilà.
Un petit peu de curiosité aussi.
Un petit peu de curiosité, un petit peu de classique aussi, puisque j'ai joué dans l'ensemble Henri Tomasi encore il y a 2 ans. On faisait des concerts sur des symphonies de Mozart et puis aussi des compositeurs plus récents, comme Janáček. Et puis le jazz, bien entendu, et la chanson. Voilà. Mais on va dire que mon influence première pendant toute mon adolescence, c'était bien sûr les Beatles.
Cette curiosité, cette influence, on la ressent dans ta musique, qu'on écoutera juste après, puisque tu as beaucoup d'influence, comme je viens de le dire, on le verra. Comment définis-tu le style musical de Mictaf?
Alors Mictaf, c'est maintenant le projet, c'est l'activité artistique essentielle, c'est-à-dire que je ne fais plus maintenant, je me concentre sur ce projet-là exclusivement. Et en fait, pour répondre à ta question, le format, c'est chanson couleur jazz.
Chanson couleur jazz.
Tout à fait.
C'est donc un petit peu un mélange du jazz qui est plus dans l'improvisation.
Oui, tout à fait, Christelle. En fait, on peut dire que sans trop rentrer dans les termes techniques, que le format chanson, il s'articule autour de couplets et de refrains. Tandis que le jazz, lui, ça va être plutôt exposition de thèmes, improvisation instrumentale et puis réexposition du thème. Ce qui veut dire que dans les chansons de Mictaf, on retrouve donc finalement à la fois des couplets et des refrains, et puis aussi des plages d'instruments, d'improvisation musicale, et puis des petits, ce qu'on appelle des riffs, qui sont là pour ponctuer un petit peu tout ça.
Et dans ce premier album, concrètement, quel est le style le plus présent, le plus marqué ?
Alors, justement, on rejoint la notion d'éclectisme, puisqu'il y a beaucoup de styles différents dans cet album. On peut retrouver essentiellement, on va dire, de la samba, de la salsa, de la pop rock, du groove, de la balade, et aussi des rumba, voilà. Et donc c'est, on va dire, c'est quand même jazz sud-américain essentiellement, avec une tendance pop rock groove.
Donc tu nous fais voyager.
J'espère en tout cas.
Tu as fait tes classes à Paris. Pourquoi avoir choisi de revenir sur Marseille ?
Alors, j'ai fait mes classes à Paris, mais en fait, je suis marseillais au départ. J'ai surtout travaillé dans la classe de Guy Lognon, que beaucoup de musiciens à Marseille ont connu. Ça a été pour moi un bassin de rencontres jazz très important. Puis après, je suis parti dans l'Hautes-Alpes faire mes armes en tant que musicien de bal pendant plusieurs années. Et puis après, avoir joué dans un groupe de rock progressif dans les environs de Gap. Je suis parti aux États-Unis et c'est en Californie que j'ai rencontré, en tant que bartender dans un club de jazz, les grands du jazz comme Stan Getz, Bill Evans. J'ai eu la chance de les côtoyer. Et quand je suis revenu en France, à ce moment-là, après avoir fait un duo de jazz qui marchait bien à l'échelon régional, j'ai senti la nécessité de partir sur Paris, où je suis resté près d'une vingtaine d'années à faire ce métier-là. J'ai accompagné beaucoup de chanteurs. J'ai fait de la musique traditionnelle, du big band. J'ai fait aussi de l'électroacoustique, de l'arrangement avec Paul Méphano. Donc, tout ce parcours musical, j'ai pris mes bagages et je suis revenu à Marseille avec, pour pouvoir dire que sous le soleil, on peut aussi faire vraiment des choses créatrices.
Oui, parce qu'au final, aujourd'hui, donc, tu reviens à tes racines, si on peut dire, après avoir fait un grand tour. Mais par rapport à la localisation, par rapport à la région, qu'est-ce que tu penses ? Comment tu ressens le public ? Est-ce que tu as la même... Parce que voilà, enfin, Paris, tu n'as peut-être pas le même réseau qu'ici. Est-ce que ça marche ici ?
C'est vrai, tu as raison. En fait, ce qui se passe à Paris, c'est que, bien entendu... les meilleurs s'y retrouvent, ou en tout cas les plus motivés. Et donc, je me suis dit, après avoir côtoyé toute cette sphère bouillonnante à Paris, je me suis dit qu'en revenant à Marseille, je pourrais aussi développer ce projet personnel en essayant de se rapprocher des gens, mais sur une thématique plus accessible. Et c'est là que m'est venue l'idée d'intégrer dans le jazz le format chanson avec des paroles en français.
Donc c'est un challenge au final, ça
reste
un challenge.
Oui, c'est un challenge. En fait, l'enjeu, c'est rencontrer des gens qui ne sont pas forcément spécialistes d'un style ou d'un autre.
Très bien, mais c'est tout à fait ce qu'on vise et ce qu'on aime, nous aussi, chez GECO. On a reçu quelques questions des auditeurs, donc je vais te les poser.
Super.
Question de Jean de Marseille. Vous avez joué au Perroquet Bleu vendredi dernier. Comment avez-vous vécu votre concert ?
Ah, le Perroquet Bleu, bah, écoute, c'est vrai que c'est un petit peu une institution à Marseille, disons qu'une institution non pas dans le jazz, mais qui a son histoire. Donc ça a été l'occasion pour moi de rencontrer l'équipe de ce lieu, et puis aussi de faire venir beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous suivent. Et donc, oui, c'est un lieu cosy, un lieu très, très convivial. Le concert, c'était vraiment super sympa, parce qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui sont rapprochés de nous. On a établi des contacts. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que des gens qui ne sont pas spécialistes justement de la chanson ou du jazz sont venus nous voir. Certains sont même mis à danser. Donc vraiment, c'est super.
Ça, c'est ce qu'on aime.
Un très bon souvenir.
Ça, c'est tout ce qu'on aime. Autre question donc, de Laetitia de Martigues. Où peut-on retrouver vos musiques et vos informations ?
Ah, alors évidemment, donc Mictaf, sur le site de Mictaf, mictaf.fr, bien sûr. Donc j'ai ma page Facebook sur facebook.com/mictaf. Et là, on retrouve en fait tous les concerts qu'on a fait depuis que Mictaf en fait existe, puisque Mictaf existe depuis février 2016 à peine. Donc ça fait à peine une bonne année.
C'est un jeune bébé.
Voilà, c'est un jeune bébé. Et puis, évidemment, je suppose qu'on va parler de cet album, donc je te laisse.
Éventuellement, oui, si on veut commander ton premier album, dont on va parler un petit peu plus profondément.
Alors, pour commander notre nouvel album, il faut donc se rapprocher de l'adresse mail réminiscence...
Au pluriel,
tout à fait. REMINISCENCES @hotmail.fr. Et là, donc... Il y a un service d'expédition aux particuliers pour notre dernier album, qui est pour un montant de 12 euros. Et puis là-dessus, il faut juste inclure les frais de port.
Très bien. On a une dernière question qui vient d'arriver. Quelles sont vos dates à venir ?
Alors, Mictaf va se produire. Ça, c'est un événement qu'on apprécie particulièrement puisqu'on a rejoint la programmation d'un lieu qui s'appelle le Théâtre du Tétard à Marseille.
Qu'on connaît bien, oui.
Voilà, rue Ferrari, pas loin de la Plaine. Et on va se produire donc dans ce théâtre vendredi 19 mai à 20h. Voilà. Et
on peut acheter les places sur le site du Tétard.
On peut acheter les places sur le site du Tétard. On peut aussi, là aussi, se rapprocher du site facebook.com. Et donc, à ce moment-là, tout sera redirigé. Quoi.
Tout sur le Facebook. Ça, voilà, c'est très pratique, les réseaux sociaux.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs. Tout comme Marie qui parle donc de tes dates futures, je me permets de te demander plus généralement quels sont tes projets à venir. Y a-t-il d'autres albums en vue, d'autres
oui,
dates?
Oui, alors il y a d'autres projets. J'aimerais, si tu permets, dire bien un petit mot sur mes musiciens. Parce que Mictaf, c'est aussi Bruno qui actuellement joue aussi dans d'autres groupes. Fabien, on va se retrouver pour un autre projet. Fabien Leroy et Fabien Mille, on va se retrouver pour un autre projet, pour un deuxième album qui va s'orienter un peu plus sur l'aspect groove, on va dire, instrumental, où en fait les paroles vont être encore plus rythmées.
Une date prévue ou loin de loin comme ça ?
Alors, une date prévue, il y a des programmations en cours pour les festivals de cet été et puis l'enregistrement du prochain album, je pense que ça aura lieu en tout début de l'année 2018.
Tu fais bien de préciser que tu vises aussi les programmations de festivals jazz et aussi de chansons françaises. Comme tu disais, c'est un petit peu un croisement de deux styles, donc peut-être que c'est difficile d'être intégré à une programmation uniquement jazz.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Là, je fais un petit peu appel à l'oreille attentive et donc de toutes les équipes de programmation, puisque notre musique, Mictaf, c'est du jazz et aussi de la chanson. Donc, on espère que toutes ces équipes-là auront une oreille attentive au-delà de leur catégorie de programmation.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter, vous qui nous écoutez, si ce format vous intéresse. On va se quitter sur un de tes morceaux de musique, Drôle de vie. Tu nous le présentes très rapidement avant qu'on l'écoute.
D'accord, ok Christelle. Bien volontiers. Drôle de vie, en fait, c'est un morceau qui a une influence, bossa samba, qui raconte l'importance que peut tenir dans notre époque actuelle, dans cette drôle de vie, c'est le titre du morceau, tout ce qui peut tisser les liens entre les gens, et en particulier, bien sûr, dans le couple. Donc cette rencontre privilégiée avec l'autre qui est destinée à... Les paroles de cette chanson sont destinées à rassurer celle qu'on aime en lui disant « Ne t'inquiète pas, je ne m'en vais pas, je suis toujours près de toi. » Et justement, dans le dernier couplet, il est dit que cette femme que j'aime... va avoir un enfant, enfin j'aime, moi pas moi personnellement, mais Mictaf bien sûr, et que on veut par cet intermédiaire de cette naissance qui arrive faire passer du noir à la couleur, en fait tout ce cri que représente la vie qui arrive.
Merci pour ce beau voyage Mictaf, on
merci,
s'écoute
Christelle,
tout de suite
merci à toute l'équipe
ton
de
morceau,
Radio-Géco.
Merci d'être venu.
Merci.
À bientôt.
fait en prison, gâchis d'amour. Ton univers déprimé coule une dalle, sécurité dans la chair de mon corps. Photomaton, CV chômage, t'as jamais vraiment plongé et tu t'amarres en sauvetage dans le char de mon cœur. Je me casse et cannibalisé, je m'éclate en fragments de lumière. Qui peut savoir de toi ou moi où mène cette drôle de vie? Mais rassure-toi, je ne m'en vais pas. Avec toi j'ai envie. Brise les béquilles de coupe standard. Te laisse pas prendre à ce piège. Autour de toi, notre histoire. Au soleil fond la neige. Tu te casses, jamais réchauffé. Tu t'éclates en fragments. Plus tard, cette petite môme qui bouge dans son corps de femme brûle pas plus haut que trois pommes. Notre angoisse par la flamme d'un avenir qu'on veut meilleur. D'un cri qu'on veut faire passer du noir et blanc à la couleur. Dans cette drôle de vie,
c'était donc la chanson de Mictaf, Drôle de vie. On rappelle qu'il sera en concert au Tétard. Et puisqu'on est dans les sorties, Panda va nous présenter les prochaines.
Ouais, salut. Bon, ben aujourd'hui, c'est moi qui me colle à l'actu sortie. Donc, j'ai noté pour vous ben, tous les jeudis au Perroquet Bleu sur Marseille, sortie After Work So British, de 18h à 20h, Happy Hour, à acheter à offert, dès 20h, musique DJ et Fish and Chip toute la soirée. Vendredi 24 sur Martigues, le rallumeur d'étoiles vous propose son premier café signe. C'est un échange entre sourds et entendants. Et c'est l'occasion bah, de pratiquer la langue des signes pour ceux qui sont intéressés, qu'ils soient débutants ou confirmés. Allez, les trottes de Miramas pendant ce temps, ce sera les excellents Red Light qui seront sur scène en compagnie de Seals. On tape ici dans du rock d'excellente qualité, tantôt teinté de folk, tantôt teinté de wave 80s. Nous vous conseillons cette date, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Sur Marseille, au Molotov, vous pourrez écouter Sally Ford qui nous vient de Caroline du Nord aux USA. Forte sonorité rockabilly, sa voix et son punch sur scène en font une artiste complète. À découvrir, d'autant que l'after DJ set sera assuré par Miss Wildcat Lou, qui a toujours une sélection rock'n'roll à faire jumper une grenouille amputée de l'arrière-train. Pendant ce temps, plus calme mais différent, au poste à l'Hélène et encore que, se tiendra la phase terminale, une excellente soirée EBM Got New Wave, plusieurs DJ et... Tizifone en live. J'avoue que j'ai un peu écorché le nom, peut-être, je ne sais plus. Bref, samedi 25.
Il adore les noms compliqués, c'est toujours comme ça. Hein.
Mais là, ce n'est pas moi le responsable, hein, tu le noteras. Samedi 25, soirée Stomp and Soul à la Maison Hantée pour les amateurs de rockabilly, psychobilly, surf music et soul music. Ça, ça va stomper. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui.
C'est bien, c'est déjà pas mal. Tant qu'on est toujours dans les sorties, on fait une pierre deux coups. On a Sylvain qui a beaucoup de choses à nous raconter, je pense. Oui. Qui est allé à la rencontre de Gaël Faye. Si vous vous souvenez, il nous en avait parlé pour parler de son livre Petit Pays. Exactement. À la première émission. On va tout de suite l'écouter.
Salut tout le monde, qu'est-ce que vous m'avez manqué? J'espère que c'était réciproque.
Pas du tout.
Non.
Merci, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, moi vous m'avez manqué.
Je t'en prie.
Et je reviens aujourd'hui pour vous parler de la rencontre littéraire avec Gaël Faye à Aix.
Tu as vu ton idole, t'es content? T'as pu l'interviewer?
Alors, l'interviewer, j'aurais aimé Christelle.
Ah, comment ça tu aurais aimé?
Eh bien, la production n'avait pas prévu le créneau pour une interview de Gaël Faye et le timing était tellement short que nous n'avons pas pu l'interviewer. Mais rassure-toi, je me suis débrouillé pour avoir toutes les informations dont j'avais besoin.
Ah, ça c'est déjà plus professionnel, raconte-nous.
Eh oui. Alors, la soirée a commencé par la rencontre littéraire. Donc, Gaël Faye était interviewé sur son premier roman, Petit Pays, pendant environ une bonne demi-heure. Puis nous avons été invités à rejoindre une grande salle pour la séance de dédicace. Et enfin, la soirée s'est terminée par un concert de Gaël Faye. Pendant l'interview, nous avons appris plein de choses. Tout d'abord, Gaël Faye nous a expliqué que son premier roman était le prolongement de ses chansons.
Comment ça? Peux-tu développer?
Eh bien, si tu écoutes l'album Pili Pili sur un croissant au beurre de Gaël Faye, tu te rends compte que les sujets traités sont les mêmes que ceux dans le roman Petit Pays. Et Gaël Faye nous explique que son roman est le prolongement de ses chansons dans le sens où il raconte des choses qu'il ne pouvait pas raconter dans ses chansons. Il détaille plus en gros.
Ok, je comprends mieux. Donc pour résumer, le roman lui permettait de s'exprimer avec plus de liberté que dans ses chansons.
Ce sont exactement ces mots. Pour lui, le roman, c'est un océan infini. Il nous a même expliqué qu'il n'avait pas l'impression d'avoir deux activités différentes entre l'écriture musicale et littéraire. Pour lui, c'est dans la continuité.
Pour lui, ce sont donc deux projets qui se complètent. C'est un artiste complet. En fait.
C'est ça, exactement. Et comme tout artiste, il a des blessures cachées. Après avoir vécu la guerre et les massacres et avoir dû s'exiler en France, l'exil a été une grande épreuve pour lui. C'est d'ailleurs une des choses qui lui a fait le plus de mal. Combien d'années a-t-il vécu dans le fantasme de pouvoir retourner dans son pays d'origine? Et il nous a expliqué que c'est par l'écriture qu'il s'est soigné psychologiquement de ce mal intérieur. Il nous dit même qu'il ne partage plus la sensation qu'a Gabi, vous savez, le héros de son roman, quand elle a envie de rentrer au pays.
C'est marrant quand même. D'ailleurs, ça me fait soulever une question. C'est une autobiographie ou pas Petit Pays au final?
Comme il a souvent répété, non, ça n'en est pas une. Mais Petit Pays est clairement inspiré de sa vie. Il nous dit même que cela peut être perçu comme une autobiographie de la sensation plutôt qu'une autobiographie des événements.
Mais si ce n'est pas une autobiographie, qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce roman autant inspiré de sa vie? Comment le tourner?
Plein de choses. Tout d'abord, il explique être assez choqué par l'attitude de la France d'oublier son passé, entre les guerres entre voisins, le renfermement vers le communautarisme ou le nationalisme, etc. Donc, il y a d'abord un travail de mémoire pour lui. Mais ce n'est pas tout. Gaël Faye nous explique aussi qu'une enfance à Bujumbura est aussi banale qu'ailleurs. Les grandes villes d'Afrique sont comparables aux villes européennes. Pour lui, il voulait nous montrer que l'Afrique n'est pas celle que l'on voit sur Rendez-vous en terre inconnue. D'ailleurs, il explique que ces grandes villes africaines se trouvent assez éloignées des campagnes et que le contraste est tel que les citadins n'ont pas l'impression de vivre dans le même pays que les paysans. Ce contraste que l'on peut d'ailleurs observer dans un passage du livre quand le petit Gabi part avec ses employés de maison à la recherche du voleur de sa bicyclette.
Alors là, je vais te coincer, je vais te demander comment est-il sur scène par rapport au concert?
Alors, c'est assez rigolo. Comment est-il sur scène?
Debout.
C'est voilà.
Parce que par rapport à toutes ces expériences-là, est-ce que ça se ressent sur scène? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Comment ça se passe, son concert?
Moi, ce que j'ai l'impression quand je le vois, c'est son visage grave. Il a l'air très, comment dire, très sobre. Il est très grand, très grand, très fin.
D'accord.
Et je sais pas, c'est toute une dégaine qu'il a, il tient son micro, puis quand il chante, parfois il. Enfin, comme c'est un peu slam, un peu rappé parfois, il fait des petits mouvements avec ses mains, comme s'il expliquait, comme s'il racontait une histoire.
C'est comme s'il racontait vraiment,
comme s'il
met de l'émotion dedans.
Ouais, comme s'il racontait une histoire.
T'as apprécié en tout cas.
Ah ouais, c'était bon.
Et par rapport donc à ses projets artistiques, où est-ce qu'il en est?
Alors, il y a un nouvel album Rythme et Botanique qui sortira le 14 avril.
Super, bonne nouvelle.
Alors, d'après ce que Galfaï m'a soufflé pendant la séance dédicace, les thèmes abordés seront différents de ce qu'il a traité sur Pili Pili sur un croissant au beurre. Pour le style, on reste sur du hip-hop slam avec une platine, un clavier et sa voix. Ensuite, il nous a parlé d'un nouveau roman en cours d'écriture. Un roman dont l'histoire se déroulera loin du Burundi et du génocide qui a massacré cette zone de l'Afrique. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique.
Je te remercie d'être allé un petit peu fouiner et récupérer des informations.
Mais de rien.
Peut-être en avant-première, j'en sais rien.
C'était un plaisir.
Puisqu'on n'a pas eu d'interview, mais tu as quand même récupéré beaucoup d'informations. Merci Sylvain pour ton implication. J'espère que tu t'es quand même aussi éclaté.
Je me suis régalé. Et puis ça a été un plaisir de pouvoir lui parler pendant la séance de dédicace. Il m'a dédicacé mon livre. Voilà.
Ah bah alors, le monde est sauvé, c'est bon.
Voilà.
Merci beaucoup. On va s'écouter tout de suite Rodrigo y Gabriela avant de poursuivre avec la chronique d'Alice qui est allée au cinéma pour nous. Retour sur le plateau de Première Classe sur Radio GECO. Nous sommes avec Alice qui va Bonjour. Nous parler de cinéma puisque elle n'est pas allée au concert de Galfaï mais non. Plutôt au cinéma.
Voilà. Alors moi moi, j'ai donc profité du printemps du cinéma pour aller voir le nouveau film de l'Américain Night Shyamalan.
Quelle merveilleuse idée.
Alors, voici le synopsis. Kevin, joué par l'acteur James McAvoy, est un homme bien particulier. À l'instar du commun des mortels, il ne possède pas une seule identité avérée dans un seul corps, mais 23 personnalités toutes distinctes qui cohabitent en lui.
Ça promet.
Ce phénomène est dû à un traumatisme psychique qu'il a subi dans son enfance qui a poussé son moi à se dissocier en plusieurs parties afin de protéger le sujet Kevin. Cependant, les 23 personnalités ne se partagent pas équitablement sa conscience. L'identité qui domine se nomme Barry, un styliste de mode un petit peu efféminé. Mais une identité restée enfouie au plus profond de lui, nommée Dennis, va se manifester et le pousser à kidnapper ses malheureux 3 adolescentes, dont la jeune Kazée, jouée par l'actrice Anya Taylor-Joy, qui, pour s'en sortir, va utiliser différents stratagèmes en tentant, par exemple, de manipuler l'une des personnalités du personnage qui prend momentanément le contrôle, un certain Edwin, âgé de 9 ans. Ainsi, Kevin devient le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités, impressionnant le spectateur par le jeu d'acteur de James McAvoy. Le trailer psychologique culmine quand une 24e personnalité tente de se frayer un chemin à travers les méandres de ce psychisme délié.
Je vois les grimaces de Sylvain. Et c'est vrai que j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal effrayant.
Moi, ça m'a fait flipper.
Ouais, ça a l'air assez flippant.
Je me suis un peu fait dessus.
rien que regardant la bande-annonce, bah dis donc. Ouais. Je te conseille d'aller le voir alors. Mais ben, je justement. Plains ceux qui seront assis à côté de toi.
J'ai eu peur. Je me suis dit, je sais pas si j'irai voir ce film, ça va me faire trop flipper.
Alors, revenons là-dessus. Ce scénario donc semble a priori biscornu, car même si les théories formulées par le personnage du psychiatre Dr. Fletcher sur le trouble dissociatif de l'identité semblent plausibles, pourquoi avoir créé 23 identités dans ce film? Parce que 2, bon, ça aurait été trop commun. 5 ou 6 personnalités, je pense que ça aurait suffi. Eh bien non, figurez-vous que ce film est tiré d'une histoire vraie.
Un patient que tu as analysé peut-être?
Non, j'en ai pas eu encore dans ce genre-là. Alors figurez-vous qu'en 1977, la police de l'Ohio, aux États-Unis, arrête un certain Billy Milligan pour avoir kidnappé et violé 3 étudiantes. Il s'agissait bien officiellement du corps physique de Billy Milligan. Pourtant, Billy lui-même n'en était pas l'auteur. Et oui, seuls Adalana et Regan étaient à blâmer pour les délits commis par Billy, deux personnalités bien distinctes hébergées par ce dernier. Oui, ce n'est
c'est
pas vraiment lui qui l'a fait ce viol. Daniel Kens, dans son livre « Les mille et une vies de Billy Milligan », nous fournit les explications détaillées de ce fonctionnement psychique singulier. Sur les 23 personnalités qui forment ce que Billy appelle une famille, oui, ils sont tellement là-dedans, ça fait
ah bah oui.
Seuls 10 sur les 23 peuvent se partager sa conscience, les autres ayant été traités comme indésirables, donc refoulés bien loin dans l'inconscient.
Par les personnalités.
Ouais, par les personnalités qui filtrent même, qui trient et qui disent non, bah, tu vas voir. Alors oh, pour citer quelques-unes de ces 10 là qui se partagent sa conscience, il y a Arthur, un Anglais extrêmement sophistiqué et instruit qui parle et écrit l'arabe et est expert en sciences et en médecine. Il y a aussi Ragan Vadanjonovicht, qui se décrit comme étant yougoslave, qui parle avec un fort accent slave et qui espère en armes à feu. Allen, qui est un extra-manipulateur, qui joue de la batterie et qui peint des tableaux. Kristen, âgée de 3 ans, qui est dyslexique. Ou encore Adelana, une lesbienne de 20 ans, qui écrit de la poésie.
C'est énorme, la diversité des personnages, en fait. Hein,
oui,
la diversité.
Et ils ont chacun leur personnalité, puis leur talent à eux. Ils parlent avec un accent bizarre.
Bon, après, vis-à-vis de la loi, ça reste la même personne, j'imagine.
Ouais,
c'est pas moi qui ai commis un crime.
C'est un
bah,
seul
si.
Corps pour plusieurs esprits. Voilà. Et dans les personnalités catégorisées indésirables, qui ont été donc triées, on retrouve Phil le bandit, Walter l'Australien braconnier, ou encore April, qui a tenté d'assassiner le beau-père de Billy. Autre originalité, Billy Milligan arrive parfois à fusionner toutes ses personnalités pour en former une seule, le professeur, doté d'une intelligence extrême. Ainsi, le film Split, par son suspense et par l'imprévisibilité de son personnage principal, nous met dans un état de tension quelquefois détendu par certaines scènes humoristiques. Un film qui illustre donc bien le côté spectaculaire de ces personnes traumatisées à qui on a réellement diagnostiqué le trouble dissociatif de l'identité.
Eh ben...
Moi, je suis content. Pour une fois, il y a quelqu'un qui a eu des noms plus compliqués que moi à prononcer. Ouais.
Vous vous lancez des petits challenges entre vous, c'est certainement.
Ça. Aujourd'hui, c'est 2-1 pour elle.
Alice, je te remercie, en tout cas, de parler d'un film qui, pour une fois, a peut-être un nouveau scénario. Et que ce n'est pas un remake de remake de remake de remake.
Il y a eu un autre film qui a été un peu dans ce genre-là.
Un peu similaire, mais ce n'est pas les suites de...
Pas dans ce genre-là exactement. Quoi,
pareil, sinar, quoi. sur ce trouble dissociatif de l'identité. Mais le film en question, je ne me souviens plus le titre.
C'est toujours un thème abordé. Mais...
Il y avait 8 personnalités, et non pas 23. Voilà. Mais là, pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait vraiment un mec qui avait eu 23.
Qui avait eu 23, parce que enfin, si c'est tiré d'une histoire vraie, c'est que...
Ouais, vraiment.
C'est bon de savoir qu'il y a d'autres films que des remakes et des suites allez au cinéma, profitez-en. Alice, je crois que tu continueras à y aller pour nous puisque tu as développé un partenariat.
Avec le Vidéodrome, tout à fait. Bon,
avec le Vidéodrome.
Ouais. Là, en ce moment, il y a un festival sur les films africains et bientôt, il y aura un festival sur la science-fiction. Voilà, où pendant une semaine, ils font des...
J'espère que tu pourras en profiter. Merci beaucoup. Restons dans les arts, mais partons dans la musique avec la chronique musicale de Panda.
Eh ouais, aujourd'hui c'est la chronique musicale comme à chaque fois, sauf que cette fois je t'ai pas donné le sujet.
Et
donc
non,
tu as
c'est
peur.
Surprise.
Ah
bah tu parlais de Jules ou pas?
Est-ce que c'est Neil
ou de à quoi Barbie Girl? Je sais pas encore. Non, on va faire la chronique musicale comme d'habitude, pas vraiment populaire, mais pas vraiment élitiste non plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monstre de la musique. Pendant que les pucelles pleurent des bimbos décérébrés, pendant que les incultes rendent hommage à des chanteurs dont la hype se construit dans leur disparition, pendant que des chanteurs de karaoké sans aucun talent ni culture vénèrent des groupes aussi fades que le goût de la bière coupée à l'eau ou aux arômes chimiques cancérogènes, si possible rappelant la vague goût de pelle citron, de vrais grands monsieur disparaissent dans un silence très étrange. Il était né le 18 octobre 1926, Charles. Il était noir, aux États-Unis. Question clairement, on peut faire pire, mais on peut faire largement mieux. Bon, et pourtant, des décennies après, on disait de lui que c'était le seul artiste qui pouvait jouer n'importe où dans le monde et recruter dans le trottier du coin ses musiciens du soir, tant tout joueur d'instruments qu'au départ cœur son répertoire. Il a été sûrement l'un des inventeurs du rock'n'roll. Presque aussi sûrement le numéro 1 en fait. Poussant jusqu'à la dernière limite le rhythm and blues, introduisant le concept de solo guitare, des paroles plus légères, me reflétant très bien une nouvelle génération dorée d'après-guerre. Et pourtant, sa jeunesse ne le menait pas forcément sur la route du génie. Enfant de famille, nombreux et pauvres, ouais, je sais, cliché, puisque j'ai déjà stipulé qu'il était noir américain et né dans les années 20, forcément, désolé. C'est à l'église qu'il découvre la musique. Ses parents faisaient partie de la chorale locale. Il apprend alors la guitare et la basse pendant ses études. Hélas, la réalité de la rue le rattrape et il tombe en prison pour braquage à main armée. Mais contrairement à d'autres, Charles, il est intelligent. Et s'aperçoit que cette vie de loser, ce n'est pas fait pour lui et ça ne mènera nulle part. Il se replace sur le droit chemin, enchaîne les boulots manuels et se lance avec son ami Johnny Johnson au piano en 1955. Premier essai et premier coup de maître, le morceau Maybelline sort et arrive directement premier dans les charts rhythm and blues et cinquième meilleure vente dans le top général. Pendant les 5 ans qui suivent, les tubes s'enchaînent. Ceux qui ont reconnu l'artiste et de qui je parle et voient très bien les morceaux.
Oh, ouais.
Les
Alice
autres les devineront à l'annonce de son nom. Mais voilà, malgré le succès, les vieux démons ressurgissent. Et sa vie deviendrait une succession de problèmes judiciaires, avec notamment des problèmes de prostitution, drogue, évasion fiscale. Non, j'étais plus, la coupe est pleine. Mais qu'importe, le monstre est né. Et AC/DC, Rolling Stone et les Beatles, entre autres, se forment grâce à son influence. Autant dire que le rock'n'roll peut l'appeler papa. Oui, monsieur Charles-Édouard Anderson Berry. En ce mois de mars 2017 en France, vous êtes mort dans un quasi-anonymat. Pendant que l'on faisait presque des obsèques nationales de musiciens bien moins influents, bien moins inspirés. Mais après tout, quand on voit votre héritage et malgré les démons, j'ai envie de vous dire merci, merci pour tout. Vous avez été l'investigateur de toute la musique que j'écoute, que j'aime. Jamais je n'ai eu envie de rendre un hommage, sauf à vous. Allez, je suis fou et je vous appelle par votre surnom. Le temps de lancer votre morceau, Monsieur Chuck Berry.
Thank you.
aujourd'hui, pas de question du jour. Alors, le petit jeu que je vous propose, à vous qui nous écoutez, c'est de nous suggérer des questions, des thèmes qui vous intéressent pour qu'on puisse faire débat dessus, peut-être ensemble, par téléphone, si vous voulez. Je vais du coup remercier d'abord Panda pour sa chronique surprise et surprenante. Je vais remercier Alice pour nous parler toujours aussi passionnément de sujets bizarres.
C'est un plaisir.
Je vais remercier mon petit Sylvain d'être allé voir Gaël Faye à sa rencontre, de s'être battu pour avoir des infos.
Mais de rien, ça m'a fait plaisir.
Et nous remercions tous, bien entendu, MICTAF d'être venu jusqu'ici, depuis Marseille, pour nous présenter son joli projet et son nouvel album, Marseille, les cigales. On vous laisse, la belle saison arrive, c'est le printemps.
Ouais.
Et on se retrouve dans 15 jours ou peut-être avant.
Peut-être.
Au revoir.
Au revoir.
Bisous.